Vivre la nuit, l'émission qui n'a pas sommeil.
Pour ce vivre la nuit, je décidai de sortir du studio, pris d'une soudaine mélancolie. Je me surpris à longer le port de Sète et pensais à nos ancêtres, ces trublions occitans qui échangeaient des chopes de Carthagène au bord de l'étang de Thau. Ces marins bourrus excités de chasser des rorquals. Le père Brassens qui fumait sa pipe en se moquant des bourgeois grognons et grognants. Ces poètes ivres qui erraient d'une page à l'autre et toutes celles et ceux qui attendaient les miracles du futur sans se douter que ce méchant ogre de capitalisme, après nous avoir tous fait chier dans la colle et régresser dans nos plus bas instincts, nous dévorerait. Il faut être bien brave pour exister. Le problème des braves, c'est qu'ils supportent moyen qu'on suive une autre route qu'eux. Bonjour l'imaginaire d'une brave route à sens unique qui nous emmène dans le cul-de-sac de l'ocre rempli de cochonneries. La bravoure n'étant pas de mes qualités, je décidai de bifurquer d'une rue à l'autre, à contresens, double sens et sans sens, suivant l'inconnu. À la recherche de quelques troubadours des temps modernes, de musiciens envoûteurs, d'inventeurs de potions, de celles qui rendent amoureux lorsque l'humeur décline. Et ne voilà pas que sur mon chemin de couard, je tombais sur un joueur d'Espina, aux racines niçoises, transporté sur la côte sétoise grâce à ses pouvoirs psychédéliques. Il se nommait Jérémy Kourou et chantait pour les Djebaleti.
Depuis 2 ans, là, venir souvent ici, parce que ça fait du bien de retrouver la Mare Nostrum, la Méditerranée, qui m'inspire beaucoup pour les chansons de Djebaleti depuis toujours. Parce que je viens de Nice à la Belle, une autre ville que la Nice Côte d'Azur que tout le monde connaît, une Nice mystérieuse, et que je chante beaucoup dans Djebaleti et toute cette Méditerranée avec ses histoires anciennes, sa mythologie, ses mythologies et son histoire actuelle qui est affreuse et qui porte toute l'histoire du monde, enfin encore maintenant, malgré qu'elle soit plus le centre du monde, mais elle a encore une histoire centrale dans le monde là, apparemment. Comme inspiration, on va dire qu'il y a une chanson qui s'appelle Amiate, qui est l'histoire d'une sirène que j'ai rencontrée à Nice, à côté des Punchettes, un coin de la baie des Anges, où il y a des cailloux pointus qui s'appellent les Punchettes. Et en fait, ici, j'ai l'impression de la retrouver un peu. Ça me donne souvent envie de chanter la mer, en fait, de voir, juste d'être... je sais pas pourquoi, c'est un peu comme si c'était un miroir. Quelque chose qui me renvoie à moi-même, un peu comme cette histoire de sirène. Les sirènes, elles noient les marins, mais peut-être qu'elles les noient en eux-mêmes, en fait. Peut-être qu'une sirène, c'est quelqu'un qu'on rencontre dans sa vie et qui nous amène au fond, quoi, qui nous noie, mais qui nous amène au fond de nous-mêmes. Et là, la chanson Amiate est sur l'album, qui est la première du nouvel album. Là. C'est un peu un deuxième épisode de rencontre avec cette sirène qui raconte en fait le fait de s'être noyé une première fois et d'avoir envie de faire une autre type de relation, en fait, une autre manière d'être en relation amoureuse. De garder la distance avec certains types de relations amoureuses. Voilà. Pour aller trouver des choses peut-être plus profondes ou plus, qui rendent plus heureux ou qui interrogent de manière différente que juste se faire noyer par l'amour ou par tout ça. Sirena que va en la bomba, sirena que va te fucking like.
canta, stupo ti vo canta, canta bene spina canta, canta bene spina canta. Ma
nega c'è l'altre marzo, nega l'altre come su di chi la tasta mio, ai gabbè.
Il y a un personnage mythologique à Nice qui s'appelle Katharina Seguran. L'histoire officielle, c'est une bugadière. Bugadière, c'est les lavandières du Paillon, là, du fleuve à Nice. Et en fait, cette bugadière, en 1543, il y avait le village, parce que ce n'était pas une ville, de Nice qui était attaqué par l'armée française, qui avait pris français, là, c'était les armées les plus structurées de l'époque. Ils voulaient amener la civilisation, entre guillemets, ce que les pays coloniaux ont amené dans les pays colonisés, c'est-à-dire la civilisation, quoi, avec tout ce que ça comporte d'oppression, de rapport de pouvoir et de domination, etc. Et en fait, moi, j'aime bien demander à Katharina Seguran qu'elle vienne nous aider aujourd'hui, là, parce qu'ils essaient de nous faire gober une société où on serait que devant l'ordinateur, que devant des choses très rationnelles. Et je pense qu'on a besoin de l'irrationnel. Je sais que j'ai besoin, moi, d'irrationnel, j'ai besoin de choses que je ne comprends pas, puisque, en fait, on est entouré en permanence de choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on est vivant? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Qu'est-ce qu'on devient quand on est mort? Ça, c'est des questions, il n'y a personne qui peut y répondre. Les religions essayent d'y répondre. La science essaye d'y répondre, mais personne n'y répond vraiment. Et moi, ça me plaît ce vide-là, quoi. L'irrationnel, on est plongé dedans en permanence, à part qu'on s'est habitué à une forme d'irrationnel. On dit que ça, c'est rationnel, et puis après, tout ce qu'on ne comprend pas, on dit que c'est irrationnel. Mais en fait, toutes ces questions-là que je viens d'évoquer, il n'y a pas de réponse. Donc on vit quand même dans quelque chose d'absolument irrationnel, quoi. Et moi, ça me plaît de m'en rappeler, ça me plaît de fouiller dans l'histoire, qui a raconté ces histoires. Et en fait, je suis tombé sur une mythologie que j'appelle mythologie carnavalesque, enfin, je suis pas le seul, hein, qu'on retrouve en fait dans Carnaval, parce que Carnaval, c'est un moment de l'année où...
C'est un drôle d'animal.
On laisse les frontières refuser et noyer les migrants.
C'est un drôle d'animal.
On est à la fois pays de la liberté. Laisse les gouvernements
un drôle d'animal,
frustrés
un drôle d'animal,
et noyer la population
un drôle d'animal.
Moi, j'aime bien, en général, quand j'expose un sujet, un fait de société, j'aime bien trouver un antidote, en fait. Par exemple, là, il y a une chanson où je parle de cette désorganisation dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches, ils sont très peu nombreux, et ils fabriquent énormément de gens très pauvres, et ça crée beaucoup de mal-être et de souffrance et de désespoir, quoi. Et en fait, la potion que je trouve, c'est-à-dire la solution à cette situation, c'est j'aimerais arriver à faire l'aumône aux dirigeants, quoi, aux gens qui ont le pouvoir, pour leur amener un maximum d'humanité, pour qu'ils changent leur paradigme, leur manière de concevoir la vie, et qu'ils agissent, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du pouvoir sur ce monde, et qui peuvent agir sur des choses très matérielles, pour le coup.
Ils sont pauvres, ils sont miséreux, ils sont nécessiteux, manquent d'humain.
Moi, je ne suis pas du tout du parti de dire que les humains ne sont pas bons. Je pense que les humains sont excellents, ils ont inventé des trucs complètement dingues, comme les chansons, comme les livres, les recettes de cuisine, les danses, les bateaux, tout en fait, tout a été inventé pour kiffer, en fait. Mais à partir de là, voilà, comment est-ce qu'on kiffe, en fait? Je pense qu'il n'y a pas une seule invention des humains qui n'est pas faite pour kiffer. Le chauffage, c'est un truc qui a été inventé pour kiffer, pour être bien, tranquille à la maison. Le canapé aussi, la télé. Mais jusqu'où on va dans ce kiff? C'est-à-dire que il y a un endroit où c'est un bonheur, où c'est le pied, mais en même temps, est-ce que c'est un bonheur au détriment des autres? Je pense que là, c'est l'hédonisme, c'est Épicure. Il faut revenir vraiment à ces philosophes là, qui ont réfléchi justement à cette question du plaisir et de la joie, du bonheur d'exister, et savoir comment est-ce qu'on peut continuer à kiffer comme ça, mais sans tout détruire, parce que là, on va vraiment dans le mur. Il n'y a plus personne qui l'ignore, là. Ouais. Alors moi, je joue plutôt de l'espine, qui est un instrument fabriqué en calebasse. C'est un instrument du pays niçois. Calebasse, on pense souvent à l'Afrique, mais en fait, il y a des calebasses dans le monde entier. On ne sait pas d'où vient ce fruit qui s'appelle la Lagenaria siceraria, qui est une forme de calebasse qui pousse à peu près partout, et on ne se rappelle plus d'où il est endémique. Alors ça, c'est assez fabuleux, ça me plaît. Il a pu voyager sur les mers parce que c'est un fruit là-dessus, et cet instrument il est incroyable parce que en fait c'est une forme archaïque d'instrument à cordes. A priori, les instruments à cordes étaient fabriqués tous en calebasse à la base, parce qu'ils ont tous des formes de calebasse, comme la guitare, comme le luth, comme la mandoline, le oud. Il y a encore des instruments aujourd'hui qui sont fabriqués dans cette calebasse. Hein. Il y a le sitar indien, la vina indienne, il y a les koras et les ngoni en Afrique, etc., etc. Il y en a des tonnes. Et moi, c'est vrai que cet instrument, il m'a plu parce qu'il raconte une histoire déjà à lui seul, l'histoire du carnaval Nisarte. Et il raconte aussi toute cette histoire de choses qui ont intéressé les humains, quoi. C'est-à-dire de faire sonner des cordes sur une caisse de résonance. Ça, je trouve ça absolument génial. Et c'est resté une forme primitive, quoi. Ce qui est assez rare, en fait.
Gargantua, devenu fou, nous devons vite le raisonner avant qu'il n'ait tout avalé. Nous devons le désenvoûter, car quand tu vas tout manger, qui sont les serveurs de soupe qui a envie de servir le maître, car quand tu vas tout manger, qui sont les serveurs de soupe qui a envie de servir le maître, car quand tu vas tout manger.
Il nous distrait, mais il va tout bouffer, quoi. Et là, nous, on est complètement obsédés à le nourrir. Donc, on fait comme les personnages sur les dessins de Dürer, là, où on y va, on le nourrit, et il nous fait délirer, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va nous bouffer, quoi. Et on le nourrit avec tout ce qu'on fait, c'est-à-dire nos forfaits téléphoniques, nos SUV, notre besoin de consommer des choses qui viennent de sortir, qui viennent d'apparaître. Là, on se pose même pas la question de savoir si ça va pas tout détruire d'avoir un téléphone, d'avoir tous des téléphones qu'on jette tous les deux ans, là. Et ce Gargantua, voilà, là, pour l'instant, il nous fait bien marrer, quoi. On s'éclate. Mais voilà. Et donc, je pense qu'on pourrait négocier différemment avec ce Gargantua, en fait.
Retrouvons les idées sublimes d'entraide et d'amitié. Est-ce qu'on pourra recommencer à construire nos maisons ensemble? Faire que les êtres vivants vivent en coopération. Arrêter la compétition de qui va détruire le plus vite.
On va se désenvoûter, on va se désenvoûter, on va se désenvoûter, on va se désenvoûter.
Est-ce que le miracle peut se faire? Est-ce que le miracle peut se faire? Est-ce que le miracle peut se faire? Est-ce que le miracle peut se faire?
D'acheter des choses qui peuvent nous rendre heureux, mais le bonheur on l'achète pas, on le sait, hein. J'aime bien écouter les gens qui font de la physique quantique, là, qui parlent de science en fait, parce que c'est aussi allumé que tout ce que je peux lire en mythologie, et ça me plaît beaucoup. Ce que j'ai appris en écoutant ces gens, c'est que la pensée avait une action sur la matière. Alors ça, c'est passionnant, parce que ça veut dire que si on pense tous un truc, on agit. Alors c'est pour ça que moi j'encourage au maximum tous les gens qui font des grands films, là, des gros films américains géniaux, à imaginer un futur qui va bien. Comme ça, on sera des millions à imaginer un futur qui va bien. Et peut-être que cette pensée-là, elle va aider à ce que ça aille bien. Parce que si on fait que des films où le futur est horrible, eh ben, si tout le monde pense ça, on va dans cette direction. Si on suit les gens, les physiciens, etc., qui ont compris que la pensée avait une action sur la matière. Donc voilà, moi j'aime bien me dire que oui, si on dit tous que le miracle peut se faire et qu'on dit un grand oui, ce oui, il a une force en fait. Il a une force sur la matière, il peut amener d'autres choses. On se restreint beaucoup, hein, dans notre pensée. On se restreint énormément tout le temps, on s'autocensure. Moi je veux bien imaginer un futur comme ça, qui fonctionne pas sur toutes les bases qu'on a depuis... En plus, quand on regarde l'histoire, on la connaît depuis une dizaine de milliers d'années, mais avant, on ne connaît pas. Les humains, ils ont vécu des millénaires, on n'a aucune idée de ce qu'ils vivaient. On connaît l'histoire écrite, quoi, les Sumériens, etc. Ça fait 8000 ans, quoi. 8000, 10000 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des civilisations qui ont fonctionné avec d'autres modèles. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas changer de modèle?
Alors là, il y a des camarades à toi qui vont nous rejoindre.
Ouais, écoute, tu m'as invité. Et là, moi, j'ai envie qu'il y ait des gens du pays qui viennent. Et là, on a la chance d'avoir le trio Akeles, qui est un trio vocal fabuleux, qui qui chantent en occitan des chansons d'ici, du pays d'ici, hein, de la région de Sète, de Montpellier, qui chantent vraiment comme j'aime les chœurs polyphoniques, c'est-à-dire c'est de la joie, quoi. C'est vraiment une joie partagée. J'ai un ami, la Manu Théron, qui est leader d'un groupe qui s'appelle le Choir de la Plane, hein, qui est quelqu'un qui a amené beaucoup cette histoire de polyphonie en Occitanie, là, qui a vraiment réveillé ça un peu partout, dans toute l'Occitanie. Et pas la région occitane, hein, la zone linguistique occitane, c'est-à-dire qui va de Bordeaux à Nice et du Limousin à l'Espagne, quoi. Et eux, ils chantent des chansons en accord majeur. Alors ça dit peut-être rien du tout à des gens qui ne pratiquent pas la musique, mais les accords majeurs sont vraiment utilisés pour la joie. Et eux, ils véhiculent vraiment ça. Et ils ont une manière de chanter ces chansons et de les honorer aujourd'hui, qui est assez rare, je trouve. Et une joie de chanter ensemble. Et justement, ce que me disait Manu Théron, là, l'autre fois, quand on parlait de chœurs polyphoniques, il me dit, mais les chœurs polyphoniques, en fait, c'est des gens qui se réunissent un peu comme autour d'une partie de cartes. C'est-à-dire, c'est le plaisir de chanter ensemble et de faire vibrer. C'est presque quelque chose qui devrait jamais aller sur scène. C'est un truc qui est un plaisir à partager entre gens qui s'aiment bien et qui aiment passer du temps ensemble. Et eux, je trouve qu'ils ont ça, et ils vont sur scène, et tant mieux pour nous, comme ça on peut en profiter.
Bah c'est bien à capiter avec la mission de parler la langue noire, hein. On peut en dire n'importe cinq, parce qu'il y a des gens qui vont à capi.
Surtout en Isarte.
Elle s'ouvre tout, ouais. Ou alors vous pouvez faire comment les Indiens, les films, les westerns, les vieilles westerns. Vous savez que par là, vous, la sous-lingue, il y avait des gens qui capissent ou rien de tout. Et ailleurs, il y a des Indiens qui capissent ou la langue des Yantens. Et alors, qui se trouvent fous de rire, parce qu'ils disent rien que des conneries. Vous savez?
Vous avez vu ces aqueles blancs qui font les couillous? Oui, oui.
Oui. Bon, mais je suis bien content de vivre, les amis, qui a quitté à 7 mais la bande d'Aqueles.
C'est le Baletti qui nous convide, t'as riplé.
Oh, Madonna Santa!
Et Amelus Gabian, c'est qui? C'est un tout plein de soutes, hein?
Ouais, qu'on fasse MF.
Ouais, qu'on fasse MF.
Parce que je suis la tête de Michan, ça.
Et aïe, aïe, aïe. C'est scritché. C'est scantate.
Arrête, calme pas que nous cagons nous sous.
Ouais, bah oui, oui. On aime veiller si c'est méchant ou pas. Et du coup, ben vous, à Aqueles, on se connaît depuis longtemps, on se fréquente depuis longtemps, et vous êtes de ce pays-là, et vous le chantez tellement bien. Et ce que je disais tout à l'heure, là, ce que j'ai aimé dans cette histoire polyphonique, là, c'est que quand vous chantez, j'entends vraiment ce que c'est la joie, en fait, la joie de chanter ensemble, la joie de chanter la joie aussi. Et ce truc, une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Manu Théron, donc, du Choir de la Plane, hein, et de toute cette aventure occitane de chant polyphonique, il m'avait dit un truc qui m'avait plu beaucoup et qui m'a fait penser à vous. C'est que il me disait un corps polyphonique, c'est comme des gens qui se retrouvent autour d'une table pour jouer aux cartes et qui ont le plaisir de se retrouver et qui se donnent rendez-vous pour chanter, pas jouer aux cartes mais chanter et se faire vibrer ces trucs. Et dans l'idée, presque le corps polyphonique devrait jamais sortir de ce cadre-là. Et alors nous, on a la chance de vous avoir, vous. Et moi, ce que j'entends dans votre musique, c'est ça, c'est-à-dire c'est la joie de se retrouver ensemble, tous les trois, là, et de chanter la joie de ces chansons anciennes qui sont tellement modernes, tellement présentes aujourd'hui. Et en même temps, vous le mettez sur scène, donc tant mieux pour nous, parce que comme ça, on peut y participer. Voilà, donc c'est un peu ça qui me donne envie, qui m'a donné envie de vous inviter, voilà, cette belle invitation que j'ai reçue moi-même dans cette émission.
Eh bien, merci.
Avec plaisir.
C'est de l'envoûtement réciproque.
Ah, le plaisir de chanter. Alors, on a souvent couplé ça avec le plaisir de manger. On a hésité longtemps entre chanter et manger. Et voilà, entre monter un groupe de musique ou une association culinaire. D'où le concept de repartition qui mélange la répétition musicale et l'action du repas et de la cuisine
contrôlée. Oui.
Ouais, on a souvent répété à côté du four.
Et les cuisines sont un très bon lieu de répétition, tu le sais. Oui. Ça aussi, ça sent les cuisines. Oh, oui. Le carrelage.
Les salles de bain sonnent très bien, mais bon, là, on serait franchir un degré d'intimité auquel on n'est pas encore prêt.
Ah bah oui,
que
fabuleux.
Tu dis.
Alors, tu voulais qu'on parle de trois sujets principaux.
J'en ai annoncé un tout à l'heure, l'envoûtement. On l'a envoûté, c'est bon ça, transition.
Attends, envoûtement, alors moi c'est central là, dans Djebalet, j'ai l'impression qu'on est un peuple envoûté. Et je m'en suis rendu compte un jour où j'étais à la Nouvelle-Orléans, et dans le quartier, dans le carré français là, il y avait, je pense, dans ce quartier de New Orleans, il y a plus de musique que dans toute la France réunie. Vivante, je parle de musique, c'est-à-dire c'est des musiciens qui ont le droit de descendre dans leur rue, de sortir les instruments et de jouer sans se faire emboucaner par les flics et les voisins trop sensibles. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, parce que cette rue, donc elle s'appelle... Alors, je suis allé loin, je suis parti dans le pantail complet. Hein. Le quartier, il y a Bourbon Street. Bourbon Street, c'est la rue la plus festive du carré français. Et Bourbon, c'est les Bourbons, c'est la famille Bourbon, donc c'est Henri IV. Et Henri IV, c'est un païen total, c'est-à-dire c'est un mec qui avait justement une double culture occitane et française, qui avait une double culture protestante et catholique, et qui a amené un truc fabuleux. Il a fait plein de saloperies, mais il a quand même amené l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est le moment où on accepte qu'il y ait des gens qui pensent autrement et avec qui on peut vivre, c'est-à-dire qu'on accepte que les protestants peuvent prier aussi sans se faire étrangler, quoi, enfin massacrer.
La tolérance.
Voilà, la tolérance. Voilà, qui est une idée franchement développée par les troubadours, etc. Donc c'est ce moment-là, j'étais à New Orleans, je vois cette rue Bourbon Street et d'un coup, je ne sais pas ce que j'avais bu avant, mais je me suis dit, waouh, mais en fait, ils ont récupéré toute l'énergie pagano-rablaisienne et ils l'ont capturée là-bas. Et alors nous, il faut la faire revenir ici un peu parce que sinon on va crever. Parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous à Toulouse, on peut
faire des boutures là-bas. Quoi.
Exactement, ouais. Alors voilà, bon, l'idée, c'était pas de faire de la musique de New Orleans, mais c'était de retrouver cet envoûtement, en fait. Et j'ai l'impression que nous, on est un peuple qui a été envoûté. On nous a fait croire que le silence, c'était une règle pour vivre ensemble. Et je pense que ça l'est pas, parce qu'il y a plein de peuples qui ont un rapport au silence qui est très différent du nôtre. Nous, la musique, c'est considéré comme un bruit, alors que c'est pas du bruit. Hein. Il faut vachement de temps pour apprendre à faire de la musique. Alors que faire du bruit, n'importe quel débile peut faire ça. Voilà, l'idée, ça serait de sortir de cet envoûtement pour arriver à réhabiter la vie, à la joie, et justement, de pouvoir chanter sans se retrouver avec des amendes, pouvoir rigoler avec des amis à la maison. Donc voilà, l'envoûtement, il est là. Après, il est présent dans plein de chansons de Djebaletti, parce que c'est un peu un cadre qui me plaît bien d'imaginer les choses sous cet angle-là. Mais moi, pour moi, l'envoûtement, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que c'est pour vous.
Ben là toi, c'est aussi la transe, quoi, je pense, dans la musique. Moi, je me souviens la première fois que je vous ai vu là avec... c'était la Vespa, déjà. C'était pas Djebaletti, je crois, mais... Il y avait un côté comme ça, il parlait d'Afrobeat, d'autres sujets de cette discussion d'Afrobeat. Et ben, là, je trouvais que c'était que tu nous faisais le Fela Kuti occitan, justement, là, cette première fois-là où il y avait la Vespa avec tout ce... voilà, c'est ce monde aussi, quoi, beaucoup de gens, avec une espèce de chœur et une espèce de transe, quoi, qui s'est mis en place avec une danse. On était dans les arènes d'Orgon, il y a eu une espèce de cagarole géante. Et il y avait une espèce de folie qui s'emparait des gens que vous avez dégagés, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il
y a eu un aïoli géant avec une espèce de tension musicale. Vous étiez sur nous, on était en train de manger, faire de l'aïoli, en même temps la musique à 20 cm des oreilles. Il y avait une folie, quoi, dans l'acte, quoi.
Dans ce que tu disais d'envoûtement, de désenvoûtement et l'histoire de la Nouvelle-Orléans, il y a un rapport avec l'espace public, quoi. Avec le fait que toute cette musique-là, cet estrambord-là, il se fasse dehors, dans la rue, collectivement, sans autorisation, c'est ça ?
Oui. Ben oui, c'est-à-dire que la musique, elle est sortie de nos vies, alors qu'elle n'a jamais été aussi présente. C'est-à-dire qu'il y a pas, là, en ce moment, on entend de la musique au fond, là, dans le bar, ils ont mis de la musique. Dans tous les lieux publics, il y a de la musique, et en fait... je pense que c'est important que la musique soit dans les gens. Et c'est vrai que quand je vous vois, le trio Aqueles, avec votre petit petit bar portable là, que vous trimballez avec vous, là, cette espèce de...
La sellette.
La sellette.
On a baptisé Tom.
Tom la Sellette. Waouh, Tom Sellette. Wow. Oui, évidemment. Et ben, je sais pas, vous trimballez ça. Pour moi, il y a un sortilège qu'on prend quand on vous voit, dans le sens où vous nous amenez dans une autre époque, dans un autre temps, mais qui est complètement dans notre temps aujourd'hui. Et j'ai ressenti ça aussi. Bon, là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de New Orleans, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Mais là-bas aussi, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un soir, je voyais un joueur de tuba avec une clarinettiste et qui chantait. Et en fait, il y avait tellement de... C'est-à-dire qu'elle nous amenait aussi dans un autre temps, quoi. Elle nous a emmené... Moi, j'ai eu l'impression de voir Louis Armstrong avec je ne sais pas qui. Il y avait un silence dans leur musique complètement incroyable. Et d'un coup, elle nous emmenait dans un... Elle nous changeait d'époque tout en étant complètement dans notre époque. Il y avait des gros SUV qui passaient, qui ne les dérangeaient pas. C'était fou, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Enfin, moi, quand je vous vois sur scène ou surtout après les concerts, ces moments magiques là, qui arrivent quand ils veulent... où on chante dans la rue une chanson comme ça d'un autre temps. C'est des trucs qui ont été écrits il y a 100, il y a 200 ans, il y a 50 ans, ou qui ont été écrits hier par un copain, quoi. Et ben, ce moment-là, il est éternel. Et je pense qu'on en a vraiment besoin. On en a besoin pour faire pop, pour faire civilisation. On en a besoin parce que notre monde, il chante plus, il fête plus ensemble, il célèbre plus ensemble. Ou alors aussi, le 14 juillet, on va tous voir le feu d'artifice. C'est dans ce sens-là que je parle de sortilège et d'envoûtement, moi.
Moi, ça me rappelle un envoûtement, parce que il y a quelques temps là qu'on se traîne ces fameux gramophones là, et c'est vrai qu'il y a de ça aussi dans ces gramophones. Tu vas mettre une aiguille sur un disque, il y a aucune interface, quoi. Il y a juste l'aiguille, le disque, et c'est un peu comme les gens qui veulent pas qu'on les prenne en photo parce qu'on va leur voler leur âme, quoi. Et c'est vrai que dans la musique, il y a, je pense que l'envoûtement, c'est un peu ça aussi, c'est l'espèce de passage d'une chanson qu'on va reprendre d'un pépé qui a chanté un truc, nous on se le reprend, il y a une espèce de... Il y a un voyage, comme si on était juste transmetteur de certaines choses. Après on transmet, on modifie, mais en fait on modifie juste en mettant la couleur qui correspond à notre époque. Mais en fait c'est une continuité de choses qui se transmettent comme ça de bouche à oreille, quoi.
Le gramophone et l'envoûtement, ça me fait penser à l'histoire de Chemirocha.
Chemirocha.
Chemirocha, c'était de mémoire, c'est l'histoire d'un ethnologue qui cherchait des coins reculés sur le continent africain et qui cherchait voilà, des endroits un peu préservés du colonialisme blanc, occidental. Il est tombé sur un endroit où il y avait des gens qui vouaient un culte à Chemirocha, qui avait une voix qui envoûtait, qui était envoûtante. Et puis en fouillant, je ne sais plus comment il a découvert ça, en fait, il se trouvait que ce n'était pas le premier blanc qui passait dans le coin et que ces gens-là avaient été en contact avec un gars qui avait un gramophone, qui avait amené des disques de Jimmy Rogers, qui était un gars qui chantait avec qui était un chanteur de country, mais qui, comme de la country américaine, qui faisait pas mal de yodel. Et ce double chant comme ça, les gens de l'endroit, ils ont été complètement subjugués. En plus, ça sortait de la machine, donc c'était complètement envoûtant et magique, quoi. Et puis après, le gars, il est reparti avec je crois que peut-être ils avaient gardé quelques disques, et c'était les reliques du truc. Et de Jimmy Rogers, c'est passé à Chemirocha, et c'est devenu une espèce de croyance, de mage, le mage qui sort de la machine, quoi.
Waouh, c'est génial.
À vérifier sur internet tout ça.
Ah non, mais il n'y a surtout pas besoin de vérifier. Moi j'adore cette histoire, c'est bon. Je vais intégrer le Chemirocha.
Je croyais que c'était Jamiroquois, moi. J'ai compris.
L'idée bien, vient des sauvages. C'est se stucca facile anche la canzone.
Che cambia una battesta di una storia di gioia e d'amore.
Se stucca facile, se stucca facile anche la canzone.
Poi suole mie li tu va de mare, la tempesta me da la bacca. Conosci bene il turismo e il giapponese, sei sottomessa all'imperialismo di
Parigi.
O vergine negra mangia le vittime di poi, che puoi incanta e se incanta che ne incanta.
L'afrobeat, alors l'afrobeat dans Jay Balletti, en fait, ça essaie de pas être surtout pas de l'afrobeat en fait. C'est-à-dire que c'est inspiré, c'est vrai que c'est très inspiré de Fela Kuti, et ça c'est sûr. Fela Anikulapo Kuti, d'ailleurs, à qui on a changé de nom depuis qu'il est mort, hein, parce qu'il s'appelait Anikulapo Kuti, ce qui veut dire quelque chose de très important, parce qu'il s'appelait Ransom Kuti à la base, et Ransom c'était le nom des propriétaires de ses ancêtres, puisqu'il avait des ancêtres esclaves, et il a décidé de s'appeler Anikulapo Kuti, de reprendre un nom Yoruba. Ce qui était un acte un peu comme les Black Panthers. Enfin, je pense que ça vient du moment où il a rencontré les Black Panthers, c'est qu'ils ont dit il faut arrêter d'avoir les noms des propriétaires de nos ancêtres, il faut retrouver des vrais noms. Et alors, ce qui est affreux, c'est que dès qu'il est mort, je me rappelle très bien le moment où il est mort, ils ont réédité tous les disques et ils l'ont appelé Fela Kuti. C'était beaucoup plus vendeur, mais je trouve que c'est beaucoup moins porteur d'histoire. Et l'afrobeat, voilà, moi je l'ai rencontré parce que c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est ma première copine, je lui ai fait connaître Led Zeppelin, elle m'a fait connaître Fela, et c'est une musique qui m'a complètement passionné, et surtout j'ai vu qu'il y avait bilinguisme là-dedans. Je me suis dit, tiens, en fait, il chante des choses en Yoruba, il chante des choses en anglais, et ça m'a fait penser à nous, notre situation avec cette langue qui... La langue occitane qui a cette situation actuelle, c'est-à-dire qu'elle est en train de disparaître complètement de la communication, elle reste dans nos pantailles, dans nos inspirations, dans notre vie, elle reste un peu en communication mais très peu. Et je me suis dit peut-être qu'elle allait finir par devenir comme le Yoruba, c'est-à-dire une langue qui reste que pour les rituels, quoi, que pour les rituels de se retrouver ensemble. Tiens, je te passe la parole.
Ça me fait penser au parallèle qui se faisait beaucoup dans l'occitanisme des années 70 entre les Indiens d'Amérique du Nord et la langue occitane. C'était les langues opprimées et Indiens de las Américas. Hein. Il y avait des êtres qui ne pouvaient pas parler, t'avais. Hein.
Bah en plus, il y a une histoire complètement... Enfin bon, après, ça, c'est un parallèle assez marrant. Mais bon, cette histoire mérite d'être racontée quand même. Ils viennent de faire un film sur ce peuple-là. Le nom m'échappe. C'est une tribu d'Indiens qui s'est retrouvée à être pris en... à être capturée là-bas, à être amenée en Europe pour être montrée dans tous les zoos possibles et imaginables en Europe. Et quand ils ont fini de les utiliser et de gagner du fric avec, ils les ont largués. Et il y en a qui se sont retrouvés à Montauban. La tribu Osage, ils viennent de faire un film là-dessus. Bon, ils parlent pas de ça malheureusement. Et en fait, cette tribu, une partie de la tribu s'est retrouvée à Montauban, à côté de Toulouse. Et le curé de Montauban, comme quoi les curés font pas que violer des enfants, ils ont poussé. C'est pas bien de dire ça. Il a fait une collecte pour renvoyer la tribu en Amérique. Et depuis est restée une amitié éternelle entre la tribu Osage et Montauban. Et donc une fois par an, il y a des Osages qui viennent à Montauban pour célébrer cette amitié centenaire là. Ouais, l'histoire est incroyable. Donc peut-être qu'il y a eu ouais, du blues chanté en... Peut-être qu'il y a eu des chants indiens chantés en occitan, peut-être qu'il y a eu des chants afrobeat. Et donc du coup l'afrobeat, le bilinguisme, ouais. Moi, c'est vrai que c'est ça beaucoup chez Fela qui m'a parlé, c'est ce rapport aux deux langues. Après, le rythme, bah, parce que le rythme, il est complètement envoûtant. Et moi, j'ai essayé de trouver... En fait, ce qui m'a plu avec l'afrobeat, c'est qu'il a inventé son, truc, Fela. À un moment, il se sentait pas dans le jazz. Il a fait un syncrétisme, voilà, comme tu dis, de tout ce qui lui plaisait, c'est-à-dire de jazz américain, des musiques de son pays, du Nigeria... Et de la musique de l'époque, hein, c'est inspiré aussi par James Brown et par tout un tas de choses, l'afrobeat. Et il en a fait son truc. Et moi, j'ai essayé de faire un peu ça en essayant de digérer l'afrobeat. Mais bon, c'est tellement puissant qu'il en reste beaucoup de traces quand même. Donc l'afrobeat, je pourrais en dire ça. Après, c'est vrai que l'afrobeat dans Akeles, il n'est pas très présent.
On va essayer. on essaiera. Bilinguisme et afrobeat.
Oui, moi, non, j'ai un peu la sensation que l'afrobeat, c'est ce qui est important finalement. C'est la langue et c'est ce que ça raconte. Et malheureusement, nous, on est plus dans le rythme que dans l'histoire en fait. Parce que c'est vraiment une musique qui a été le véhicule d'une pensée politique. Quoi. Et c'est vrai que nous, on est là, on se dandine sur.
Moi, par exemple, tu vois, tout ce que je connais de Fela, j'ai aucune idée de ce qu'il raconte par exemple.
Oui, voilà. Moi, c'est pareil. Hein. Je vois un petit peu.
Je suis jamais intéressé à ça. J'ai jamais fouillé. Je sais pas ce qu'il raconte.
On sait qu'il y a eu des attentats, des machins, des histoires contre.
Mais Fela, c'est une chronique politique de toute son époque. C'est-à-dire les 30 disques qu'il a fait. Je sais pas combien il en a fait. Il en a fait des tonnes. Ça raconte toute l'histoire du Nigeria et il avait un courage incroyable. C'est-à-dire que c'était quelqu'un dans un pays dictatorial militaire qui citait les personnes en disant il a fait ça et c'est une saloperie. Il a contredit vraiment le colonialisme, le post-colonialisme de manière très. Il est mort de... la mort est toujours belle. Mais non, il est mort, j'en sais rien. J'aime pas trop les ragots, parce qu'en fait, on sait jamais de quoi ils meurent, les gens célèbres, en fait.
C'est une question biographique, hein.
Ouais. Non, j'en sais rien.
Tu penses à Diana quand tu dis ça?
À qui?
À la princesse.
Ah, oh là là.
C'est retour de l'avoutement, pardon. Hein.
Moi, c'est vrai que j'avais vu une photo une fois de Fela en coulisses et il faisait des maïs yoruba juste avant de monter sur scène. Je me suis dit, putain, il y a une spiritualité qui est mélangée à la musique comme ça, très puissante, quoi. Et j'ai retrouvé ça chez les Gnawa, surtout, que j'ai rencontré vraiment là, beaucoup plus que l'afrobeat, parce que l'afrobeat, moi, c'est par les disques que je la connais. Et je me suis dit, oh là là, il y a un truc à faire par rapport à notre culture, parce que nous, on a vraiment une mythologie hyper puissante ici. Et qu'on exploite très peu, en fait, c'est même pas qu'on l'exploite pas, mais c'est qu'on la connaît très mal. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans cet ordre-là.
Pour ça, on a la chance d'avoir, dans la culture occitane, énormément de collecteurs qui se sont intéressés à plein de sujets variés. Et il y a, je sais plus si c'est la Talvert, il y a des gens qui ont fouillé le sujet de l'envoûtement des animaux. Par exemple, un animal qui était malade, c'était qu'il était, on pouvait le désinfacciner. Qui te mouvait derrière? T'es sous mon espace, d'accord?
Oui, oui, mais c'est tout le...
Désinfacciner, il y a le type qui venait désensorceler les bêtes. Il y a des recueils de tout ça, en fait, et qui peuvent, c'est tout le travail des collecteurs.
Les mecs qui dansaient la bourrée, vous avez le feu qui sortait des sabots, il y a des histoires comme ça, quoi. Qui peut faire retourner le lait, c'est aussi les envoûtements, les petits envoûtements populaires, quoi. C'est pas que des envoûtements, on va dire à grande échelle mystique, c'est aussi le mauvais œil. Je pense qu'aujourd'hui on a un peu tout ça aussi, quoi. On est tous un peu laïco-animistes, quoi, dans nos pratiques. On a une espèce de, je sais pas, on voit des signes, on les interprète, on joue à les interpréter, on s'amuse. On a besoin aussi de mystère, je pense que.
Laïco-animiste.
Ou animisto laïque, je sais pas.
Ancêtre mythologique, à divinité mythique, venez dans cette ronde, venez nous aider. Invoque ici et maintenant. Ah, prendre dans leurs songes. Les fous aux commandes de ce monde, vous seuls pouvez nous aider, vous seuls pouvez changer leurs rêves. Saint-Esprit de l'air, venez dans cette ronde. Ô esprit lumineux du feu et de la terre, venez vous enjailler, venez nous enchanter. Venez vous enjailler, venez nous enchanter.
Forcément, on les chante, les ancêtres, même si c'est pas forcément les nôtres. Moi, c'est pas les miens, en tout cas, parce que je suis flamand d'origine. Et justement, c'est marrant, il y a aussi des... on sent des cheminements, quoi. Moi, un beau jour, j'ai appris que mon grand-père, que j'ai pas connu, était clarinettiste, je suis clarinettiste. C'est pareil, c'est une forme aussi d'animisme, quoi. C'est se dire, c'est rigolo qu'il y a des choses comme ça qui sautent, des générations, des choses qui traînent comme ça, qu'on comprend pas. Là, aujourd'hui, je bosse sur la chasse, je me demande s'il n'était pas chasseur, tu vois. Parce que ma mère s'appelle Diane, donc je me dis, tiens, ça, c'est quand même rigolo.
Soit disant que j'ai un arrière-grand-père et qu'il n'était pas très vaillant au travail.
Tiens donc. Il était instituteur aussi.
Non, il était cafetier.
Ah ben voilà, tout s'explique. Moi, la chanson Ancêtre, c'est... En fait, c'est qu'à un moment, je me suis dit qu'on ne célébrait pas et qu'on ne racontait pas les histoires des anciens, en fait. Et que c'était un gros manque dans notre culture de ne pas raconter l'histoire. Parce que j'ai eu la chance une fois de rencontrer une chamane guatémaltèque qui m'a dit que quand on meurt, en fait, on se sépare en trois parties. Il y a le corps physique qui disparaît dans la terre. Il y a le corps, il y a l'esprit qui continue son chemin là, d'une vie à l'autre. En tout cas, dans sa croyance, c'est ça. Et il y a quelque chose qui reste et qui est, pour elle, devient une étoile et qui continue à vivre tant qu'on parle de cette étoile, tant qu'on parle de cette personne.
La mémoire, le souvenir, quoi.
Ouais.
Peter Pan.
Exactement.
Il y a un texte de Gélu comme ça, le Credo des Cassians. Ti souvenes vidau, c'est l'histoire d'un berger qui était analphabète et qui, il y avait un gamin qui traînait avec lui tout le temps. Et puis ce gamin, après, il est parti faire des études, c'est devenu un saberut, c'est devenu quelqu'un d'instruit. Mais qui se souviennent toujours de ce gros berger qui savait lire les étoiles. Et le refrain, il est très beau, où il dit que quand on meurt, on rejoint les étoiles du firmament et que voilà, il y a cette survivance qui perdure dans le ciel. Mais ça, je pense que c'est un truc assez répandu quand même, non ? Poussière d'étoiles de Hubert Reeves. Chez Flammarion ? Non. Chez Flammarion.
Voilà, ça fait un lien entre une chamane guatémaltèque et un chanteur de la vie marseillaise du début du siècle. C'est pas mal. Bah, on a des ancêtres, oui, on a des ancêtres mythologiques communs, on en a plein.
Oui, j'ai pas longtemps, je crois que je vais pas arriver à le ressortir, mais c'était un truc du genre, donc on a deux parents, on a quatre grands-parents, on a huit grands-parents, et en montant comme ça, en fait, c'est pas possible, au bout d'un moment, on se recoupe.
Mathématiquement, tu veux dire?
Ouais, c'est mathématiquement incestueux, oui. C'est, on peut pas, à un moment donné, on se croise, quoi.
Oui, il y aurait 20 milliards d'ancêtres, en fait, et c'est pas possible.
Voilà, c'est ça.
Mais après, il y a les ancêtres du sang, mais en fait, ça, on n'en est jamais vraiment sûr, parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé avec le facteur et avec le mec qui passait par là. Donc, les ancêtres du sang, c'est une chose, mais il y a les ancêtres qui sont de cœur. Moi, il y a un jour, je me suis rendu compte que je me rappelais de la mort de Bob Marley, que je ne me rappelais pas de la date précise de la mort de Bob Marley, et pas la date de la mort de ma grand-mère, tu te rends compte? Donc, ça veut dire que ce mec-là, il a presque une place dans ma famille. Et tous ces gens qui nous ont appris des choses, qui nous ont inspirés, qui nous ont appris à vivre. Je veux dire, moi, il y a des chanteurs qui m'ont ouvert sur une grandeur d'âme que j'aurais jamais eue, je pense, que s'ils n'avaient pas chanté. C'est peut-être nos ancêtres communs, c'est peut-être ceux-là aussi. Et nous, on en a plein dans le monde occitan, on en a même des récents, même des vivants, on a des ancêtres vivants. On est quand même tous les enfants de certaines personnes du monde occitan qui ont fait des choses avant nous et qui ont fait qu'on est là, peut-être à Tcharin.
Dis-le, on est les enfants d'un Mistral.
De Rancher. Rancher, vous le connaissez pas, merde.
Nous, on revient de trois jours, on a furné un peu au Cirdoc là, dans la poésie occitane, et c'est marrant parce qu'il y a, tu vois, les rebonds justement d'une génération à une autre génération. T'as des thèmes qui reviennent, par exemple, j'en sais rien, mais il y avait le thème de l'aube le matin, et chaque génération il va de sa poésie sur un thème, et c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire. T'as un peu l'image du poète qui est tout seul dans son monde intime, et qui va, et en fait on partage aussi les mêmes mondes intimes. Dès que les poétiques, forcément, si c'est poétique, c'est que ça parle aux uns et aux autres. Après, on ne le reçoit pas tous de la même manière, mais il y a une puissance quand même dans ce passage, dans cette transmission. Et dans l'occitanisme, c'est assez flagrant. C'est pas non plus si grand qu'on ne connaisse pas les auteurs. Tu vois, tu vas de... Là, tout à l'heure, c'était Louise Paoli qui va vers Anthony Perbosque. La génération au-dessus, tu as la même chose avec... Roquette et Camprous, ils sont peut-être de la même époque, remarque. Voilà des choses qui sont très proches les unes des autres, et à la fois chacun a son petit pétillant, quoi, comme la blanquette ancestrale.
La blanquette ancestrale, c'est l'animal totem du pays là, ou quoi? Ah, conclusion, où est-ce qu'on va pouvoir nous voir jouer? Alors on sort les téléphones pour regarder les dates. Non, il y a vraiment une date qu'il faut que j'annonce expressément, c'est à Gignac le 8 novembre, au Somnambule, avec comme invité, non pas Akeles malheureusement, mais Maya Barou, qui est une chanteuse franco-japonaise, qui a sorti un album il n'y a pas longtemps et que je trouve fabuleux, et qui est invitée sur le dernier album de Djebaleti. J'ai trouvé justement ce lien dans le bilinguisme. Elle a vraiment deux cultures qu'elle assume pleinement, une culture japonaise et française. Elle a vécu longtemps à Tokyo, enfin elle a grandi là-bas, et elle a fréquenté tout le milieu complètement dingue des cabarets de Tokyo, où il y a des gens extraordinaires, parce que c'est un pays qui est tellement cadré que quand ils lâchent, je te dis pas, c'est fou, quoi. Donc elle a vraiment ce monde-là, et en même temps elle est d'ici, elle est française, elle chante en français. Donc il y a Maya, et il y a aussi Fixi qui est un vieux pote, un vieil ami, un très bon ami, qui était l'accordoniste et compositeur du groupe Java, où justement on s'était retrouvé sur cette question, c'est pas de la Mantalo, et où on avait tchatché beaucoup à cette époque-là de qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a, quoi. Moi je viens de Nice, lui de Paris, qu'est-ce que tu fais avec ces héritages culturels, quoi, et comment tu le fais aujourd'hui? Et Fixi, il a fait aussi un duo avec le chanteur jamaïcain Winston McAnuff, qui a fait vraiment des œuvres magnifiques. Enfin, c'est super beau son boulot. Et il a bossé longtemps avec Tony Allen, le batteur de Fela à Nicolas Pocouti. Voilà, Fixi, c'est un vieil ami avec qui on a travaillé sur le premier album de Djebaleti. Et là, il m'a filé un coup de main sur la réalisation du dernier album qui vient de sortir. Donc, il joue du clavier sur pas mal de morceaux, et il joue de l'accordéon sur un titre aussi.
Écoute, nous, dans un mois, première fin de semaine de décembre, premier week-end de décembre, il y a un cabaret qui se monte avec un chapiteau, un étrange cabaret qui se monte à Frontignan et qui va durer plusieurs semaines. Et nous, on y chantera la première semaine en partageant le chapiteau avec d'autres disciplines.
Ouais, j'ai parlé du 8 novembre, mais il y a le 7 novembre, c'est un peu plus loin, mais c'est à Rodez, au club, où on fait aussi ce coplateau. Là, c'est vraiment deux dates un peu exceptionnelles avec Maya et Fixie. Et où on va jouer le nouvel album de Djebaletti qui est sorti il y a un mois maintenant, qui s'appelle Potion et qui est trouvable partout. Ben, il faudrait chanter une chanson. Hein.
Ah, une chanson.
Il n'y a qu'un saut.
Comment on fait? On met les micros au milieu de la table?
On a commencé à bosser celui-là grave, mais elle n'est pas prête.
Elle n'est pas prête. 1, 2, 3.
Vélou, 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 et donc. Kouma Faloubulou.
C'est pas. Oui, non, mais remonte la mémoire corporelle.
Vélou, vélou, vélou.
La mémoire corporelle.
Vélou, 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 vélou. 1, 2, 3. Vélou, 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 et donc. Kouma Faloubulou, d'intré de l'horizon. Nissa s'illumina d'aki, d'amour. Car une s'encamina sous ta lulampiou. Urgia, folia, si mascaren et bataillen, si pesugen et si baillen, que sauta, milanta. Es un grand bal, fage du foal, es carnaval, es carnaval, la 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 Et plein d'élégance s'ouvre le pont et vieille. Y'a son asfanfara et boum, au canon. Clénon et guitare répétant la canson. Urgia, moulia. Si mascaren et bataillen, si pesugen et si baillen. Tu sauta, milanta. Es un grand bal, fagin du foil. Es carnaval, es carnaval. La 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 Nissa la regina d'amour, dei flou, di una gioia divina fluirà lui sul giù. Pi di un bel sourire e menchun farà, aurè d'ossier brire lui sul più douce baia. Urgia, folia, si mascaren e bataillen, si pesugen e si baillen, que sauta, milanta. Es un grand bal, fagen e foal, es carnaval, es carnaval, la 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 la.
Je comprends tout.
Comment on a fait
ça? Ça, c'est l'emboutement.
Et c'est sur ces mots carnavalesques que je repartais de cet l'esprit léger, rêvant de Felacuti, de Gargantua, de cérémonie, de sortilège, de Bourbon Street et de Chemeleocha. Et je me disais, en les voyant rire, chanter, bavarder et s'amuser, que ça fait du bien des fois d'envoyer tout péter.